Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité du samedi. Au programme aujourd'hui, nous retournerons à Carlo Vivari où s'est déroulé le célèbre festival international de cinéma au début du mois. Anna Kubishta y a rencontré un jeune réalisateur français, Olivier Bowler, passionné par Jean-Pierre Melville, lequel faisait l'objet d'une grande rétrospective. Guillaume Narguet vous proposera ensuite sa rubrique bimensuelle consacrée à la langue tchèque et qui s'attardera cette fois-ci au vocabulaire de l'univers carcéral et des prisonniers politiques. Enfin, vous pourrez écouter une rediffusion de la rubrique littéraire de Václav Richter du 13 novembre 2010 dans laquelle il nous faisait découvrir le réalisme socialiste dans l'art sous le régime communiste. Bonne écoute à tous et à toutes. Dans le cadre du 47e festival du film de Carlo Vivari était organisée une grande rétrospective du cinéaste français Jean-Pierre Melville, dont on dit qu'il est le père spirituel de la nouvelle vague. Olivier Bowler est un jeune réalisateur passionné par le cinéma de Melville. Il a réalisé un documentaire sur ce dernier, sous le nom de Melville et son nom, et a accepté de répondre aux questions d'Anna Kubishta dans la suite et fin de cet entretien. Il est d'abord revenu sur les cinéastes qui ont inspiré Jean-Pierre Melville.
Culture sans frontières.
Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a souvent tendance à dire, parce qu'il a fait une liste, c'était un obsessionnel des listes, Melville a fait une liste des 63 cinéastes américains d'avant-guerre, donc qui étaient ceux qui l'ont formé. Donc dedans, il y a Clarence Brown, il n'y a pas Cécile B2000 parce qu'il ne supportait pas Cécile B2000, il n'y a pas Chaplin parce que c'est le dieu vivant, celui-là, il est hors course, mais il y a tout le cinéma d'avant-guerre. Donc on s'est beaucoup basé sur cette liste-là pour dire, les origines de Melville, elles sont là. Alors, c'est trompeur à plusieurs niveaux parce que on voit bien qu'en fait, il aurait très bien pu faire une liste des 63 contemporains. Il avait imaginé la faire, et puis il n'a pas fait faute de temps ou faute de... Voilà. Et que quand on regarde L'Armée des Ombres ou Le Doulos, les références sont des films qui sont des films américains beaucoup plus récents. Par exemple, La Sauvage Jungle. Et ça, c'est pas cité dans sa liste des 63. Houston ne fait pas encore partie de sa liste des 63, si je me trompe pas. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut prendre des références qui sont celles souvent pour ces films, en fait, de l'après-guerre. Et là, il y a des décalques entiers de scènes. Il retourne des plans quasiment à l'identique. Mais sa formation de cinéphile, effectivement, il l'a faite en allant 4, 5 fois par jour au cinéma, en commençant à 10h du matin, en finissant à minuit. De l'âge de 8 ans à l'âge de... quand est-ce qu'il est rentré dans l'armée? Très tôt, hein. Il est rentré dans l'armée en 36, à l'âge de 20 ans. Voilà, c'est vrai que c'est le cinéma qui l'a formé. Mais il y a clairement deux parties, et je pense que ce qui est puissant aussi chez Melville, c'est que il tire une partie de son essence, non pas du polar, de ce qu'on appelle nous le polar souvent, ou de la série noire, dans le sens où c'est Humphrey Bogart, l'imperméable, etc. Alors évidemment, l'imperméable, c'est trompeur, il est sur le dos d'Alain Delon tout le temps, mais cet imperméable, il est déjà sur le dos d'Alan Ladd dans les années 30 ou au tout début des années 40. Il est déjà cette iconographie, elle est déjà constituée dans le film de gangster. Il prend beaucoup chez James Cagney dans les films des années 30. Donc il est, on pourrait dire qu'il est à la fois influencé par les tout premiers films de gangster, ceux de 1929, 1930, 1932, voilà, ces tout premiers là. Et puis l'après-guerre, les années 46, 47, 55.
Alors, comme on a parlé des influences que lui a eues du cinéma américain, quelle est sa postérité à lui? Est-ce que des cinéastes se sont inspirés de Melville, ou en tout cas, est-ce qu'elle est fan justement de Melville, hein?
Alors, je rajouterais juste une petite chose. Melville connaissait remarquablement bien l'ensemble du cinéma. Et dans ses influences, le cinéma japonais, par exemple, est loin d'être absent. Il l'a vu Mizoguchi, il aime ça, clairement. Donc là aussi, ou les samouraïs, évidemment, enfin, ce genre de choses. Kurosawa, c'est flagrant qu'il y a des parentés. Sinon, pour les cinéastes que lui a influencés, on doit quand même, il faut le reconnaître, à Tarantino, d'avoir avec Reservoir Dogs et ses grandes tirades et ses grandes dédicaces, rendu un hommage à Melville formidable, qui nous a permis à nous en France de redécouvrir, de refaire un peu le parcours et de dire on a peut-être oublié quelque chose que les Américains sont en train de redécouvrir, et nous on a du retard par rapport à ça.
C'est paradoxal, on redécouvre finalement Melville par le biais des États-Unis. Ouais.
Par le biais des États-Unis qui lui l'ont conduit au cinéma. Donc effectivement, le jeu est celui-ci. Jim Jarmusch évidemment aussi. Les deux, hein, Tarantino et Jarmusch, avaient accepté d'être dans le film, et pour des questions de planning, on n'a pas pu le faire. C'est un grand regret. Tarantino parce qu'il était en tournage, Jarmusch on avait un jour de calé, la veille il a été obligé d'annuler et il en était aussi désolé que nous, donc on peut dire il est là quelque part dans le film, en pensée en tout cas. Et par ailleurs, là aussi où c'est amusant par rapport à ce que je vous disais sur le fait que Melville avait été influencé par le cinéma japonais sûrement, c'est que les Asiatiques ont repris le flambeau. Et donc évidemment John Woo, c'est le premier, qui à peu près en même temps que Tarantino a lui aussi payé des hommages, par exemple dans The Killer, qui est quasiment un remake de Samouraï, à Melville, et Junito, qui est dans le film et qui lui aussi cite Melville régulièrement. Ou, et c'est plus étonnant et très intéressant, un cinéaste comme Kobayashi, Masahiro Kobayashi, qui est un cinéaste très, on va dire, très intellectuel, un auteur à la mode française, presque, qui est très francophile. Et lui, les films qu'il cite, c'est pas nécessairement Le Samouraï ou les films d'action comme Le Deuxième Souffle, mais c'est L'Armée des Ombres, qui est même visuellement cité dans un de ses films, puisqu'un de ses personnages regarde une cassette vidéo de L'Armée des Ombres. Et là, c'est passionnant parce que c'est un autre versant de l'œuvre de Melville, pas seulement la veine polar, mais une veine plus, on va dire, plus tragique, plus intimiste.
Pourquoi dit-on que justement Melville est le père spirituel de la nouvelle vague, a priori comme ça spontanément, j'aurais pas dit que il est de la nouvelle vague.
Alors il l'est, donc il est très en avance, puisque si on compare, Le Silence de la Mer c'est 47, À bout de souffle c'est 59, donc il y a plus de 10 ans d'écart. Il l'est parce que il est d'abord le premier cinéaste, peut-être au monde, ne soyons pas prétentieux, en tout cas au moins français, le premier cinéaste à être formé par le cinéma. C'est-à-dire que sa seule formation, c'est les films qu'il a vus. Et il vient au cinéma en voulant soit refaire, soit proposer quelque chose de nouveau par rapport à ça. Comme il le dit très bien, quand Renoir ou Chaplin ont commencé, ils n'avaient pas de modèle. Il a fallu inventer le cinéma. Lui, il est le premier des cinéastes à ne pas inventer quelque chose du cinéma, mais à arriver avec déjà une culture toute constituée, dans laquelle il essaye de trouver sa place. Ce qui est typiquement la position de la nouvelle vague, qui elle sera formée par Langlois à la Cinémathèque. Ils voient des films, et c'est ce qu'ils voient chez Langlois à la Cinémathèque qui leur donne envie de faire des films. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, comme vous le rappeliez avec beaucoup de justesse, il y a le fait que Melville en 47 tourne un film en dehors de toute production normée. C'est-à-dire, il n'a pas un producteur avec lui, il est le premier auteur-producteur, il fonde sa propre société de production pour pouvoir tourner, puisqu'à l'époque il fallait normalement, pour être réalisateur, avoir été assistant sur plusieurs films, avoir une carte d'assistant qui vous permettait ensuite de pouvoir éventuellement, voilà,
donc machine.
Une grosse machine, et il fallait être vieux pour commencer à faire du cinéma. Donc c'est un résumé rapide, mais c'est un petit peu ça. Donc là on a au contraire un cinéaste jeune qui sort de la guerre, qui a une énergie vitale débordante, qui a pas un franc devant lui, qui dit qu'il rentre tous les soirs de tournage en lavant sa chemise parce qu'il en a qu'une, pour pouvoir en avoir une propre le lendemain, et qui a qu'une envie, c'est de faire du cinéma. Donc il autoproduit totalement ce film avec un petit peu d'argent familial, un petit peu d'argent gagné comme ci comme ça, pas du tout avec l'argent de Nicole Stéphane qui était l'actrice principale et qui était une Rothschild, comme on l'a rappelé ensuite très méchamment. Elle a jamais aidé à la production de ce film là mais par contre, voilà, Melville est dans une position d'indépendant à ce moment-là. Et c'est ce que la nouvelle vague essaiera de refaire, de la même façon que tourner en décor naturel, parce qu'a priori ça coûte beaucoup moins cher, etc. Et ils ont à peu près, on va dire pour beaucoup d'entre eux, un parcours assez similaire, dans le sens où ils vont aussi apprendre que tourner Melville le premier et puis la nouvelle vague ensuite, tourner en extérieur, ça coûte parfois beaucoup plus cher que tourner en intérieur dans un studio, parce que quand le soleil s'en va au mauvais moment, il faut recommencer le lendemain, et vous avez gâché deux fois de la pellicule, alors que si vous l'aviez fait en studio, la prise était bonne dès le départ. Donc voilà, donc ils tireront souvent les mêmes leçons aussi.
Tout doucement pour terminer, son nom Melville, parce que c'est pas son nom d'origine, puisqu'il avait un autre nom de famille, Grumbach. Alors c'est évidemment un hommage à Melville, l'auteur de Moby Dick. Pourquoi cet hommage littéraire finalement chez ce cinéaste?
Alors ça dit beaucoup de choses de la grande culture de Melville déjà, et de l'importance du littéraire chez lui. C'est quand même extrêmement étonnant, sur 13 films qu'il a fait, il y en a plus de la moitié qui sont des adaptations, à commencer par effectivement Le Silence de la Mer, qui est son premier film, mais des chefs-d'œuvre comme Le Silence de la Mer, comme L'Armée des Ombres, évidemment aussi, et puis, on va dire, des romans plus faciles, comme Le Deuxième Souffle ou ce genre de choses. Mais donc, l'importance du littéraire chez lui, c'est quelqu'un qui avait une passion pour Aragon, qui était baigné dans la culture de son temps et même auparavant. Et puis évidemment la culture américaine, il le dit d'une manière assez amusante. Il dit j'adorais Edgar Poe, mais ça plaît Poe, c'est pas ce qui sonne le mieux en France, donc c'était pas possible. Et puis il restait Melville qui avait, et là aussi c'est toute l'ambiguïté. Quand son modèle c'est le cinéma américain, mais il fait un cinéma qui est extrêmement français par ailleurs, extrêmement européen on va dire en tout cas. Bertrand Tavernier explique ça à merveille quand Melville fait un plan qui est une reprise d'un plan de Robert Wise. Il le fait durer un peu plus longtemps que le même plan chez Robert Wise. Du coup, ça devient un plan de Bresson, ça devient plus un plan de Wise, même si le cadrage est celui de Wise. Donc, on est toujours à cheval chez Melville entre les deux cultures, entre les États-Unis et l'Europe. Et ce qu'il y a de merveilleux chez Herman Melville, c'est que c'est un peu ça aussi, et que le nom même de Herman Melville est un nom qui sonne très français. Donc, il a choisi le plus français des noms d'auteurs américains. Et on ne peut pas dire que la littérature d'Herman Melville soit une littérature empesée ou d'un classicisme 19e très lourd. C'est une littérature d'un modernisme extraordinaire. Et derrière des apparences de « Ah oui, c'est la grande histoire de la chasse à la baleine », mais quand on lit vraiment Midi, qu'on se rend bien compte à quel point, d'un point de vue métaphysique, c'est extrêmement en avance sur son temps. C'est sûrement le premier très grand roman moderne. Donc, ça aussi, ça nous parle de l'œuvre de Melville, qui, derrière son classicisme, est une œuvre justement fondamentalement moderne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a cette importance-là. Donc voilà, je pense que la parenté, elle est là, et le modèle, il est là.
C'était le cinéaste Olivier Bowler au micro d'Anna Kubishta. On passe à notre rubrique Le Tchèque du bout de la langue, qui vous est proposée par Guillaume Narguet.
Le tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Comme promis dans une de nos dernières émissions, nous allons revenir sur les mots et expressions de la langue tchèque relatifs à l'univers carcéral, un sujet qui reste plus que jamais d'actualité si l'on s'en tient à tous les scandales qui font le quotidien des médias tchèques. Pour cette fois, plusieurs mots très intéressants ont retenu notre attention. La dernière fois, nous avions notamment évoqué le mot d'argot,
basa,
qui, comme beaucoup d'autres que nous avions également cités, peut désigner la prison.
Viezani.
Parmi les autres mots cités, figurait
chatlava,
un mot certes archaïque, mais sur lequel nous allons néanmoins nous arrêter un instant, car son origine apparaît particulièrement intéressante pour les francophones. Certains linguistes ont en effet émis l'hypothèse que le mot proviendrait du français châtelet, en passant par l'allemand
schachtelei.
Or, le Grand Châtelet était une forteresse de l'Ancien Régime située sur les bords de la Seine à Paris, un bâtiment qui contenait un tribunal, un poste de police, mais aussi un certain nombre de prisons et de salles de torture. Lieu sinistre, le Châtelet, dans le geôle duquel étaient enfermés les grands criminels, était même une des principales prisons de Paris, et ce jusqu'à ce que Napoléon ordonne sa destruction au début du XIXe siècle. Sur son emplacement fut alors édifiée la place du Châtelet, puis plus tard le théâtre du même nom. En français, du moins pour les Parisiens, Châtelet, phonétiquement proche de la prononciation de
« Châtelava »,
pouvait donc désigner une prison. Malheureusement pour nous, il ne s'agit là que d'une hypothèse, car la réalité est quelque peu différente.
Châtelava
semble en effet plutôt provenir du vieux mot allemand
Châtel,
qui signifiait alors
Bedna,
c'est-à-dire une boîte, une caisse, un coffre. Un mot sans doute à relier à l'actuel
Châtel,
qui signifie toujours une boîte ou un paquet. Il semble donc que le mot tchèque
Châtelava
ne possède finalement pas de lien avec la prison qu'était le Grand Châtelet, mais provienne plutôt de l'allemand
Châtel,
auquel les Tchèques ont ajouté le suffixe
Ava
dans le processus de production toponymique. « ainsi donc avec
Bassa
et
Chatlava,
un mot d'argot et un autre archaïque que nous avons estimé particulièrement intéressant. Mais pour qu'il y ait des prisons, il faut bien entendu qu'il y ait des prisonniers.
Vězni.
Dont les Tchèques disent parfois familièrement qu'ils sont assis.
Sedí.
Attention cependant, si le verbe
sedět,
dans son sens commun le plus usité, signifie bien être assis, lorsqu'il s'applique aux personnes condamnées en train de purger leur peine,
být ve výkonu trestu,
qui se trouvent derrière les barreaux,
za mřížemi,
cela signifie plutôt faire de la tôle ou être en cabane. Pour désigner un prisonnier, les Tchèques parlent aussi parfois de
kriminálník,
un mot à mettre évidemment en rapport avec criminel, mais qui équivaut aussi souvent à un tolard. Ce mot
kriminálník
provient de
kriminál,
autre mot appartenant au langage populaire et synonyme de prison. Mais les deux mots les plus intéressants pour désigner des prisonniers, et pas n'importe quel prisonnier, sont probablement
politický
et
mukl.
Le premier, qui signifie politique, n'est en fait rien d'autre qu'un adjectif, une abréviation pour
politický vězeň,
un prisonnier politique. Si cette abréviation est apparue dans le langage courant des Tchèques, c'est sans doute parce que la Tchécoslovaquie communiste a compté plus de 250 000 de ces personnes condamnées pour leurs opinions politiques entre 1948 et 1990, un chiffre qui, aujourd'hui encore, continue à faire froid dans le dos. Et parmi ces prisonniers politiques, dont le sort n'était déjà pas très enviable, figurait également un type bien particulier, le
moukl,
un mot intraduisible en français puisqu'il s'agit là d'une contraction composée de la première lettre des quatre mots de la formule
muž určený k likvidaci,
qui désigne littéralement un homme destiné à la liquidation. Le prisonnier n'était pas nécessairement condamné à mort, comme pourrait le laisser penser le mot liquidé. Néanmoins, ses conditions de détention étaient telles qu'on supposait qu'il ne sortirait jamais vivant de la prison, du camp de travail ou bien entendu du camp de concentration sous le régime nazi où il avait été interné. Sous le régime communiste, dans les années 1950 essentiellement, les
Muklové
étaient notamment envoyés dans les mines d'uranium où le taux de mortalité était très élevé, et ce pour des raisons très variées, depuis la torture jusqu'au suicide déguisé, en passant par exemple par le manque ou tout simplement l'absence de soins médicaux. Plus tard, le mot
« moukl »
s'est généralisé pour désigner l'ensemble des prisonniers politiques, et ce donc jusqu'en 1990 et la fin du régime communiste. C'est sur cette conclusion, finalement, somme toute plutôt heureuse, que s'achève cette deuxième et dernière partie consacrée au vocabulaire relatif à l'univers carcéral. On se retrouve dans 15 jours pour d'autres découvertes sur cette langue tchèque que nous apprécions tant. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Mějte slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
La première décennie après la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Tchécoslovaquie est une période marquée par un régime arbitraire. Le pays, libéré en 1945 de l'occupant nazi, ne jouit d'une liberté relative que 2 ans et quelques mois. En février 1948, les communistes prennent le pouvoir et instaurent un régime imitant la dictature stalinienne. Tout doit se soumettre à la doctrine officielle, toute opinion indépendante devient trahison. C'est la peur qui couve sous l'optimisme affiché, et ceux qui ne se soumettent pas aux nouvelles autorités sont bannis en marge de la société et risquent la prison, voire la mort. Dans l'art, c'est la doctrine du réalisme socialiste qui est appliquée, et il semble que l'art véritable cesse d'exister. En 2010, une exposition et un livre ont rendu justice à cette période en révélant que même pendant ce temps-là, il existait en Tchécoslovaquie une culture indépendante, un art secret mais vigoureux qui évoluait librement malgré les impératifs politiques. Václav Richter nous la faisait découvrir dans sa rubrique littéraire du 13 novembre 2010.
Rencontre littéraire. La première décennie après la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Tchécoslovaquie est une période marquée par un régime arbitraire. Le pays libéré en 1945 de l'occupant nazi ne jouit d'une liberté relative que 2 ans et quelques mois. En février 1948, les communistes prennent le pouvoir et instaurent un régime imitant la dictature stalinienne. Tout doit se soumettre à la doctrine officielle. Toute opinion indépendante devient trahison. C'est la peur qui couve sous l'optimisme affiché et ceux qui ne se soumettent pas aux nouvelles autorités sont bannis en marge de la société et risquent la prison, voire la mort. Dans l'art, c'est la doctrine du réalisme socialiste qui est appliquée, et il semble que l'art véritable cesse d'exister. Ce n'est qu'en 2010 qu'une exposition et un livre rendront justice à cette période en révélant que même pendant ce temps-là, il existait en Tchécoslovaquie une culture indépendante, un art secret mais vigoureux qui évoluait librement malgré les impératifs politiques. Roky ve dnech, les années dans les jours, tel était le titre de l'exposition que le public a pu voir à la Bibliothèque municipale de Prague de mai à septembre 2010. C'est ainsi que s'appelle également le livre très représentatif que la commissaire de l'exposition Marie Klimešová a consacré à la période entre 1945 et 1957 dans les arts plastiques tchèques. Le livre est sorti en 2010 aux éditions Arbor Vitae. La genèse de son titre est assez compliquée. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le poète et collagiste Jiří Kolář décide d'écrire chaque jour, tout au long d'une année, un poème et un texte en prose. Ainsi voit le jour un recueil de poésie que le poète intitule « Dni v roce », le jour de l'année, un recueil de prose, un journal personnel, intitulé « Roky v dnech », les années dans les jours. Les deux livres retracent la période entre le 18 février 1946 et le 15 février 1947. Les poèmes ressemblent plutôt aux notes d'un observateur objectif et impartial. Pour souligner leur caractère documentaire, l'auteur y ajoute la date exacte de leur création. Jiří Kolář réussit encore à faire publier le premier livre, Les jours de l'année, mais le coup de Prague en 1948 empêchera la publication du second livre, Les années dans les jours, qui ne pourra paraître qu'en 1993, donc 3 ans après la chute du communisme. La commissaire Marie Klimešová explique quel est le rapport entre le journal de Jiří Kolář et le titre de l'exposition de la bibliothèque municipale.
Non, je to...
C'est dans une certaine mesure une paraphrase du recueil de Jiří Kolář qui justement ne pouvait plus paraître en 1948. Le titre de ce recueil était pour moi la métaphore de toute cette exposition qui était basée dans une certaine mesure sur la méthode de certains artistes qui créaient comme s'ils écrivaient un journal intime. Souvent, ils marquaient la date exacte de la création de leurs œuvres qui revêtait pour eux une signification très autobiographique, très actuelle, la signification d'un journal.
Quelques 600 œuvres de la période de 1945 à 1957 sont reproduites en couleur dans le livre de Marie Klimešová, une monographie basée sur l'exposition de la bibliothèque municipale qui jette une nouvelle lumière sur un chapitre de l'histoire des arts plastiques tchèques, mais aussi sur toute une époque.
Évidemment, c'est une époque compliquée. Jusqu'à présent, sa perception a été assez simpliste. On l'apercevait soit comme une époque où pratiquement rien ne s'est créé, soit comme une période pendant laquelle une certaine position dans les arts plastiques tchèques avait été occupée exclusivement par le groupe surréaliste dont la création mérite l'attention.
Le livre est divisé en 3 parties et 13 chapitres. La première partie évoque la période entre 1945 et 1947, le temps de la liberté retrouvée et des espoirs qui devaient être bientôt déçus. L'auteur décèle 3 tendances principales dans les arts plastiques de cette période. La guerre, trop récente encore, se fait sentir dans des tableaux surréalistes de Toyen et dans des compositions abstraites de Vladimir Boudnik. La réalité de l'après-guerre se reflète dans les œuvres pleines plein de signes et de symboles des peintres Karel Černý et Jan Zrzavý, et finalement une tendance primitiviste s'impose dans les toiles d'Emil Fila et de Pavel Brázda. La période totalitaire entre 1948 et 1956 apporte de nouveaux thèmes et de nouvelles tendances. C'est la peur omniprésente qui filtre à travers les toiles de Mikuláš Medek et stimule l'imagination de ce peintre inspiré par le surréalisme. D'autres artistes dont Emil Fila, Josef Šíma, Alain Divich et Jan Zrzavý apportent une vision nouvelle, souvent sombre et menaçante, du paysage tchèque. Un autre groupe de peintres, dont Václav Boštík, explore le thème de la mort, tandis que les gravures de Bohuslav Reynek, paysages et motifs religieux de format modeste, mais d'une rare profondeur, apportent une spiritualité et une sérénité réconfortantes. Le réalisme officiel fait lui aussi intrusion dans les œuvres de ces artistes de l'avant-garde, mais comme c'est le cas des natures mortes d'Andrei Bielotsvietov, le réalisme de ses œuvres est dénaturé et devient instrument d'un message existentiel. C'est le visage humain qui fascine les artistes de cette période et les pousse à créer beaucoup de portraits et d'autoportraits. Maria Klimešová cherche une explication pour ce phénomène.
Je crois que c'est lié un peu avec l'aspect existentiel de cette époque, parce que dans l'après-guerre, les gens se posaient des questions pour savoir ce qu'ils étaient, ce qu'ils représentaient dans cette nouvelle époque. Ils s'examinaient beaucoup et cherchaient dans leur visage les réponses à des questions existentielles. Sur ces portraits, ils ont presque tous une expression très coléreuse et très sévère. Quand ces portraits ont été réunis et exposés ensemble, je dois dire que cela m'a coupé le souffle.
La dernière partie du livre est consacrée à l'année 1957, année du 20e congrès du Parti communiste soviétique qui a déboulonné le culte stalinien et apporté un espoir de dégel idéologique et politique. Et l'auteur de constater que certains artistes d'avant-garde qui entrevoyaient la possibilité de présenter leurs œuvres au public ont adopté un style moins novateur et plus conformiste et se sont mis à pratiquer une espèce d'autocensure. Dans la période ultérieure, les historiens de l'art tchèque ont eu tendance à négliger et à sous-estimer la création artistique de la première décennie de l'après-guerre. Vu sous cette optique, les arts plastiques tchèques de ce temps-là se réduisaient aux œuvres d'une poignée des plus grands artistes. L'objectif de Maria Klimešová était cependant de démontrer qu'il serait erroné de réduire la création artistique de cette époque-là aux œuvres de quelques personnalités exceptionnelles.
Les autres auteurs, dont Emil Fila, Jan Zrzavý, Alain Divich, ont fait des expositions, bien sûr, mais il me semblait qu'ils étaient interprétés isolément et souvent leur création d'après-guerre n'était perçue que comme un additif à leur création antérieure. Et je voulais ébranler d'une certaine façon tous ces stéréotypes et démontrer que même la création tardive de certaines grandes personnalités était dans cette époque très indépendante, très forte, et que certains thèmes réunissaient même des artistes qui n'avaient rien en commun quant à leur approche des arts plastiques.
C'était donc une rediffusion de la rubrique littéraire de Václav Richter, consacrée au réalisme socialiste dans l'art. C'est ainsi que s'achève le programme de Radio Prague en français. Pierre Ménian vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions sur notre site internet www.radio.cz/fr. À bientôt.